puis si la colonisation a été si barbare que ça, pourquoi est-ce que les Maghrébins maintenant ils rafluent en masse en France à l'heure actuelle? Donc je sais pas si vous ferez passer mon message, mais un peu d'objectivité s'il vous plaît, monsieur Mermet. Allons, c'était Jean de Moulin, au revoir.
Bonjour Mermet, là, j'ai écouté avec attention votre émission hier là. Et notamment, il y a une phrase qui m'a rappelé des souvenirs quand on parlait à propos des massacres d'Oran, des types de AS qui tiraient sur les prisonniers derrière les barbelés, là, les félagas, disons, qui les tiraient comme des pigeons. Et comme je pense que ça va faire un gros buzz dans le milieu pied noir contre cette enquête-là, donc, je voulais dire qu'un gars qui était en classe avec moi dans les années 66 à peu près, s'était vanté d'avoir tiré sur justement les fêles comme au tir au pigeon. Voilà, c'est exactement ces mots. Ce garçon est mort depuis, donc bon, paix à son âme. Hein.
Pourquoi les gardiens de la pensée unique ont-ils besoin du Front National? Pour sauver le système économique. La France, par son histoire, n'est pas un pays où le bipartisme a su s'imposer, contrairement à d'autres pays occidentaux. Le danger FN permet de justifier et de renforcer, par le vote utile, les deux grands partis, et donc l'alternance. Ou bien, au second tour, le Front républicain permet la victoire automatique pour l'une des deux grandes formations. Le FN, haut dans les sondages, ne contestant pas l'ordre économique dominant, justifie un temps de parole qui, couplé aux deux autres, met au silence toute possibilité de penser et de réfléchir autrement. Le peuple de gauche, en 2012, va-t-il déjouer le piège du vote utile, la stratégie dangereuse du diable de confort, des apprentis sorciers et autres sauveurs du système? Régis de Nîmes.
Je viens d'entendre Gaudin, Jean-Claude, maire de Marseille, qui disait que avant de pétarder la bombe découverte à Marseille et évacuée au large, avant de la faire exploser, on faisait partir les poissons. J'y étais souvent à la pêche, mais je me demande comment il fait partir les poissons. Ou alors peut-être qu'ils ont publié un arrêté préfectoral et puis qu'ils l'ont affiché sous l'eau. Ou alors ils diffusent les discours de Sarkozy. Mais ils parlent bien, le poisson. Hein. Moi, je ne le comprends pas du tout. Alors, mais les poissons doivent le comprendre. Hein. Je vois que c'est une solution.
Bonjour, ce message s'adresse à Monsieur le Président de la République, donc Monsieur Sarkozy. Monsieur le Président de la République, vous voulez faire en sorte que la formation des chômeurs devienne une priorité absolue, ce sont vos propos derniers. Je suis salariée formatrice à l'AFPA, premier organisme de formation professionnelle des adultes en France. Je vous dis chiche. Et alors, arrêtez vite, très vite, notre DG, Monsieur Kaila, et son équipe qui applique avec zèle des consignes de démantèlement de l'AFPA. Les salariés de l'AFPA n'en peuvent plus de ce chaos organisationnel récent qui contribue au gâchis humain, économique et social. Il faut, Monsieur le Président de la République, au contraire, que vous sauvegardiez et développiez ce qui est encore l'AFPA, exceptionnel outil au service des besoins de formation professionnelle de tous les salariés et plus particulièrement des demandeurs d'emploi.
Merci pour ces messages, chers AMG. Toute la question, elle est dans ce dernier message, probablement. On reviendra hein, sur les questions de 1962. On voit que c'est très vif. Et pourtant, l'intervention de Pierre Daume dans l'émission d'hier était mesurée. C'est ce que nous avons pensé. Mais il y a des réactions toujours très, très vives sur ces sujets. Et promis, on y reviendra plus en longueur. Mais évidemment, la question du jour, c'est la question de la lutte contre le chômage de masse, c'est la perspective d'une TVA sociale, c'est encore une fois, on en revient à la lutte contre ce spectre du chômage, même si on comprend que pour certains, cette crise constitue tout à fait une aubaine pour faire avancer les réformes, les fameuses réformes, tout comme on le disait dans l'émission de lundi, tout comme le 11 septembre a permis aux antiterroristes, soi-disant, de faire avancer toute une série de lois liberticides et de contrôle des populations telles que le Patriot Act. C'est aujourd'hui, pour certains, une aubaine que cette crise qui permet de flexibiliser encore plus, d'alléger les charges patronales, etc., etc. Mais tout ça a une histoire, le travail, bien sûr, a une histoire, mais le travail précaire, la précarisation du travail a une histoire. Et c'est cette histoire qu'on va évoquer aujourd'hui. On revient dans des archives de notre émission qui date de 2007, où nous avions évoqué l'histoire de la précarité, du travail précaire. La précarité a une histoire, avec deux inspecteurs du travail, qui sont des gens qui ont les mains dans le cambouis tous les jours, qui savent très bien de quoi il en retourne dans la vie quotidienne des entreprises et des travailleurs. Dans les années 60, on rêvait de travailler moins, voire de ne plus travailler du tout. Un beau jour, il y avait une utopie assez formidable qui s'inscrivait d'ailleurs dans toute une histoire du droit à la paresse, disons, hein. Et c'était, oui, on va sur la route, on est des nomades, on se promène, on se balade, la vie ne sera qu'une grande, un grand voyage. Et quand le travail intérimaire est arrivé avec, vous vous souvenez peut-être, enfin les anciens s'en souviennent, de Manpower, mais pas mal de jeunes de ma génération à l'époque disaient, c'est pas mal, on va travailler quand on veut, après tout, voilà. Et quelques années plus tard, avec les délocalisations, avec la libéralisation, avec la globalisation, etc., c'est bel et bien le monde du travail qui se trouvait affaibli par la concurrence généralisée. Et la défense des salariés à travers leurs syndicats s'en trouvait d'autant affaibli. Et aujourd'hui, on le voit dans les images qui nous parviennent, entre le gouvernement d'un côté et les syndicats de l'autre, le rapport de force, il y a à peu près ce qui peut exister entre un cheval et une alouette. La force des salariés, la force des syndicats n'est vraiment plus ce qu'elle était grâce à cette énorme manœuvre qui a été l'ouverture, la concurrence mondiale et les délocalisations. Je vous dis des choses que vous savez déjà, peut-être que c'est pas encore assez clair dans les esprits, parce qu'à chaque fois on va sur les effets, mais je crois qu'il faut remonter aux causes et à l'histoire de cette précarité. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui jusqu'à 16h dans la Bassie. J'y suis avec François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel. La révolution égyptienne continue le 25 janvier au Caire, partout en Égypte, mais également à Paris, avec une marche des Égyptiens et de tous ceux solidaires de l'Égypte le 21 janvier à 15h de Belleville à Bastille, le mercredi 25 janvier à 17h du Trocadéro à l'ambassade d'Égypte, mais également des projections de films. Le film sur Tahrir au Paris Reflet Médicis le 25, 27, 30 jusqu'au 17 février. Et 9 films documentaires dans 3 cinémas, les 3 Luxembourg, La Clé, L'Écran à Saint-Denis. Également en région à Laval, Caen, Lyon, Marseille, Clermont, Avignon. Avec des débats qui seront animés par le groupement Égypte Solidarité sur les femmes dans la révolution, la répression, le mouvement social, la géopolitique avec Alain Grech et la poétique de la révolution. Bref, venez soutenir la révolution égyptienne et toutes les révolutions arabes du 25 janvier au 11 février. À très bientôt, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Dana Dinescu, je suis roumaine. Je voulais vous signaler qu'en Roumanie se passent des choses graves et les échos dans les médias étrangers sont presque inexistants. Les gens sont dans la rue depuis 3 jours, ils se sont organisés sur Facebook, et la police les bat, les blesse, les traite de hooligans, et ce sont des gens corrects, non violents, qui manifestent pacifiquement contre le régime. Pourquoi cette silence? Pourquoi le peuple roumain a-t-il si peu de considération?
Salut les AMG, c'est Émilie de Haute-Loire. C'était un message pour annoncer le deuxième repère du mois qui aura lieu ce mercredi 17 janvier de 20h à 22h au café culturel Le Goût du Monde, rue Saint-Jacques au Puy-en-Velay. Et puis donc pour annoncer officiellement que à partir de ce mois, nous aurons deux cafés repères par mois, un qui aura lieu le premier jeudi de chaque mois et un deuxième qui aura lieu le troisième mercredi de chaque mois. Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements à l'adresse mail amg-haute-loire@hotmail.fr. À bientôt, salut.
Bonjour les amis des bords de Loire, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, chers AMG. Retrouvons-nous pour le troisième café repère qui aura lieu au café Le Mathelem à La Varenne, tout près de Nantes. Venez nombreux le jeudi 19 janvier à partir de 20h. Et ensemble, nous échangerons sur le thème de la dette, ses origines et ses conséquences. Nous comptons sur vous tous, les amis de là-bas si j'y suis, pour animer nos discussions. À jeudi prochain, donc, 20h, le jeudi 19 janvier, au café Le Mathelem à La Varenne. Bonne journée à tous.
Pendant que nos élites n'en finissent pas de disserter sur le triple A perdu, la casse de l'éducation nationale se poursuit dans l'ombre, avec à Limoges la fermeture totale du lycée professionnel du Majambeau à la rentrée scolaire 2012. Une fermeture sans aucune concertation avec les principaux intéressés. Et pire, qu'enseignants, élèves, parents d'élèves, conseil régional, maire de la ville ont appris par le biais de la presse vendredi 7 janvier. Le lycée du Majambeau, à proximité de quartiers populaires, compte près de 310 élèves pour un taux de remplissage maximal de 340. C'est un lycée professionnel présentant des filières peu représentées en France, telles que la céramique, le modelage ou les métiers de la tapisserie. C'est un lycée qui fonctionne bien, qui procure en fin de cycle non seulement un diplôme à ses élèves, mais aussi souvent un premier emploi et par suite de la reconnaissance de ses filières. Les 300 élèves devront à la rentrée prochaine, si la décision de fermeture est maintenue, soit pour les plus chanceux poursuivre leur scolarité dans un autre lycée, parfois situé à plusieurs kilomètres de leur domicile, ou quitter l'école sans avoir pu terminer leur formation. Venez dire non à la fermeture du lycée Majambeau, vendredi 20 janvier à 8h30 devant le rectorat.
L'envol. Elle l'avait si large qu'en lettres majuscules, en laissant une marge, j'écrivis sur son cul « Je t'aime à la folie », mais elle lâcha un paix et mes mots si jolis s'envolèrent à jamais. C'était pour Nicole de la part de son chéri. Salut.
Tout va bien, quoi. Pas de soucis, mais à part l'avenir, quoi. Je comprends pas, c'est justement, j'ai travaillé en intérim, j'ai fait 16 entreprises, sur 16 entreprises, on veut pas garder. Bon, c'est sûr, c'est de l'intérim. Mais je comprends pas, quoi. Ouais, parce que c'est stressant, quoi. C'est même invivable. J'ai l'impression d'être comme un objet sans vie, quoi. Je ne ressens pas rien, je suis paumé.
Les hommes ont parfois besoin d'autres hommes pour réussir. Ensemble. Manpower.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec François Ruffin. La précarité a une histoire.
Flight number 2, arriving from...
Ne travaillez jamais. Ne travaillez jamais. C'était le slogan, le mot d'ordre ou le mot de désordre des situationnistes des années 60. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Vous vous souvenez? La joyeuse chanson du joyeux Henri Salvador. Et vous vous souvenez du droit à la paresse, de l'an 01, de Temrock. et de tous ces rêveries, de toutes ces rêveries qui nous semblaient un jour ouvrir des horizons où le travail serait un choix. On choisirait de travailler ou de ne rien faire. Tel était notre horizon, notre utopie, et quelque chose de possible. On découvrirait un jour le temps du non-travail, un continent, celui du non-travail. Aujourd'hui, le travail, eh bien, c'est la première préoccupation en ces temps électoraux de notre société. Plus exactement, l'emploi, plus exactement, le rôle qu'on tient, plus exactement, la fragilité, la précarité. Comment en est-on passé de ces perspectives d'un jour travailler moins, voire pas du tout, à aujourd'hui où c'est l'angoisse qui est au cœur de la société, c'est le moyen du contrôle social? Comment ça s'est opéré? On connaît la réponse généralement, c'est la crise. Il y a eu un moment, on ne sait plus très bien quand d'ailleurs aujourd'hui, une crise, comme il y a eu des tsunamis, comme il y a eu des moments, des glissements de l'histoire, des grandes fractures qui se produisent bien contre notre gré. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Quelle a été la volonté des hommes? Quelle a été la part de l'idéologie? Quelle a été la part des hasards? Quelle a été la part des idées? Et quelle a été la part de l'histoire? Alors comment ça s'est produit? On va aujourd'hui, avec François Ruffin, essayer d'expliquer quelle est l'histoire de cette précarité, avec des personnes qui savent bien, par leur rôle, par leur boulot, comment ça s'est passé de l'intérieur. Je veux parler d'inspecteurs du travail. Et oui, ils sont des gens qui connaissent bien ces histoires-là, à une époque, à un moment où ils sont largement marginalisés, pour ne pas dire dénigrés. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, la précarité a une histoire.
Les idées saines, qu'est-ce que c'est?
Les Français sont paresseux.
Car ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout.
Il va être possible de travailler plus pour gagner plus.
Les Français sont paresseux.
Pour en finir avec une spécificité française, le déficit de travail.
35 heures.
Et donc comme des imbéciles, on ne dit rien, avec les choses qui n'ont pas travaillé. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité.
Les Français sont paresseux.
Rendre au travail sa place dans notre société.
Il faut pas travailler, faut gagner beaucoup d'argent, faut partir en vacances.
Les Français sont paresseux.
Julie, ça fait 3 ans. 3 ans que Julie fout rien. Toi, ça fait 2 ans que tu fous rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. Vous faites rien.
On savait pas que le travail, c'était dur à trouver.
Moi, je comprends pas, franchement, non. Vous êtes déjà pas capable de vous lever le matin pour aller chercher?
Bah, toi, travail, c'est quand on peut
aller avec toi. Bah, si, quand on cherche, on trouve.
Ça veut dire surtout que quelque chose ne tourne pas rond dans le travail aujourd'hui en France.
Les Français sont paresseux.
Bonjour, paresse.
Rien à craindre, qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps.
Les RTT qui ont créé de mauvaises habitudes.
Pour pas travailler, pour pas travailler.
35 heures.
Et de là à dire que ce qui est bien, c'est attendre son chèque à la fin du mois sans en ficher une rage.
35
heures. Mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail.
Il faut gagner plus si tu travailles.
Se défoncer pour une grande entreprise, c'est trop con, tu es sûr de te faire avoir.
Bon, on va tous au chômage, c'est tout. Il faut travailler plus, on travaille plus assez en France.
Les Français sont paresseux.
Pas un jour sans de nouveaux propos provocateurs de la part du MEDEF exigeant toujours plus de flexibilité, toujours plus de précarité comme seul remède contre le chômage. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est 1973. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Tout ça, évidemment, sans doute, n'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors, on a demandé à deux inspecteurs du travail qui ont préféré rester dans l'anonymat. On va donner simplement leur prénom. L'un s'appelle Yves et l'autre Gilbert, de retracer l'histoire de cette précarité.
Alors, je voudrais qu'on monte aux années 70, c'est le moment où finalement le code du travail est le plus solide.
Bon, déjà, bon, le droit du travail est le résultat des luttes sociales. On prend un exemple en matière d'accident de travail, la loi de 76 sur la prévention, la grande loi hygiène sécurité a été adoptée après qu'un juge Charette, ait mis en prison un patron suite à un accident mortel. En 73, c'est la loi sur le licenciement. C'est-à-dire que depuis la loi 73, on n'a pas le droit de licencier quelqu'un sans cause réelle et sérieuse.
Donc c'est en 73 qu'il y a une obligation de motiver un licenciement.
Oui, c'est la loi 73. En 75, il y a la loi sur l'autorisation administrative de licenciement qui a été supprimée en 86.
Donc on voit ces trois dates, 73, 75, 76, ces trois lois qui viennent donner davantage de droits aux salariés et davantage d'obligations à l'employeur. Quelle est la dynamique qui est en cours là, à ce moment-là, durant les années 70?
Ben, la dynamique, elle est, en gros, c'est le droit du travail 36, grande grève générale, les conventions collectives, les délégués du personnel, à la libération, les comités d'entreprise, une avancée sociale importante, et après, 68, avec la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise et du délégué syndical.
C'est-à-dire que le droit du travail évolue en fonction des luttes sociales, donc il y a trois grands moments dans les luttes sociales. Il y a 36, donc là, à ce moment-là, il y a une première série de mesures qui est prise. Il y a 45, avec le Conseil national de la résistance, une seconde série de mesures qui est prise. Et troisième poussée sociale, c'est 68, où là, dans l'après-68, donc qui dure grosso modo jusqu'en 75, là...
Jusqu'au choc pétrolier, les politiques d'austérité et l'arrivée de ce qu'on appelle la flexibilité.
Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
En 1967 et en 44 secondes que vous venez d'entendre, Georges Pompidou trace le début de la révolution conservatrice néolibérale. Désormais, la précarité, désormais, la concurrence, fini, ces Français paresseux et assistés, il va falloir se bouger, il va falloir bouger à défaut d'être archaïque, pas moderne, etc. La chanson commence là, c'est sans doute, la première note de la chanson. On va voir à travers d'autres archives comment cette déréglementation, cette précarisation a évolué, s'est installée peu à peu dans le travail, dans les mœurs, dans la politique et dans les consciences. On est avec nos deux inspecteurs du travail, Yves et Gilbert.
Là, on a décrit une série d'avancées, en tout cas dans le droit, dans le code du travail. Mais en même temps, durant ces années 70, il y a une montée du chômage. Et en même temps, il y a un second mouvement qui va dans le sens de l'installation, malgré tout, d'une certaine flexibilité.
Tout à fait. À partir de 74, avec Barre, on commence à attaquer effectivement, au nom encore une fois de l'insertion dans l'entreprise et dans l'emploi, on va créer des statuts complètement dérogatoires, la création de ce qu'on a appelé les stages pratiques en entreprise, ensuite les SIVP, et tout ça en plus, sur financement public. Ça, c'est ce qu'il faut dire aussi. Non seulement les salariés sont plus dans une situation normale et habituelle, légitime d'un CDI, mais en plus, les employeurs, sous différentes formes, ça a pris différentes formes, des primes, des exonérations de charges, le fait qu'on pouvait payer en dessous du SMIC, etc. Et tout ça a cru et embelli.
Et l'intérim, par exemple.
Alors justement, l'intérim,
ça commence quand, l'intérim?
L'intérim, ça commence dès les années 60, notamment, par exemple, dans des grands chantiers comme l'automobile, ou le bâtiment, les travaux publics, où se développe, la sous-traitance. Et donc, jusqu'en 72, normalement, l'intérim est illégal. À l'époque, le ministère a un discours un peu hypocrite, c'est de dire c'est illégal, mais en fait, dans la réalité, on le laisse se développer. L'intérim, qui est une création nord-américaine, le numéro un de l'époque de l'intérim, c'est Manpower, qui, dans les années 60, a introduit en Europe, et notamment en France, le concept d'intérim, qui jusqu'à la loi de 72, qui lui donne un statut légal, est parfaitement illégal.
Mais alors, vous étiez inspecteur du travail à ce moment-là?
Moi, j'étais inspecteur du travail en 73. Mais j'étais dans les services avant 72.
Mais alors, comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui est illégal? Et parce que Manpower, il devait avoir des agences où on voyait marqué Manpower.
Tout à fait.
Quelque chose qui est illégal et qu'on laisse s'installer, qui s'installe en place publique.
Bon, alors, si vous voulez, il y avait deux éléments. D'abord, c'était, ça n'avait pas l'importance que ça a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 700 000 équivalents temps plein intérimaires qui travaillent chaque mois. Donc, ça veut dire beaucoup plus de monde, puisque les missions, la durée moyenne d'une mission, c'est 15 jours. À l'époque, ça n'avait pas l'importance numérique que ça avait. Et à l'époque, sur le marché du travail, les gens avaient encore le choix entre l'intérim et une insertion normale sous CDI. Ce qui a été dramatique, c'est que c'est devenu une forme qui s'est développée quantitativement et surtout qui aujourd'hui est un intérim massivement subi.
72, sa première grande date de la précarité finalement.
On donne un caractère légal à l'intérim qui normalement était illégal.
Pourquoi on le légalise en ce moment-là, l'intérim?
Parce qu'on a, dû considérer à l'époque que, un, ça allait pas devenir le phénomène de masse que c'était, et puis deux, il y a eu un choc politique, là aussi, de se dire, donnons un caractère légal à quelque chose qu'on peut pas empêcher, ou qu'on ne veut pas empêcher.
Et du côté de l'inspection du travail, comment réagissaient les agents à cette première installation d'une précarité?
La réaction, ça a été de dire, bon, puisqu'il y a eu un choix politique de légaliser cet intérim, contrôlons mieux. On a eu cette illusion-là qu'en contrôlant l'activité notamment du travail temporaire et des utilisateurs, on arriverait à endiguer et à moraliser le système. La suite nous a donné tort.
Les entreprises de travail temporaire ont pris une importance grandissante depuis 20 ans, date de leur apparition aux États-Unis, et depuis une quinzaine d'années, date de leur apparition en Europe. Actuellement, 100 000 travailleurs sont touchés en France par le travail temporaire. C'est en valeur absolue un chiffre important, mais nous pensons que le travail temporaire ne doit conserver qu'un caractère marginal et ne pas influer lourdement sur le marché de l'emploi.
Mais est-ce que vous ne rencontrez pas, par exemple, des spécialistes du travail temporaire, des gens qui ne veulent faire que ça?
Il arrive que nous ayons des spécialistes de travail temporaire de deux catégories, des travailleurs que nous appelons les hommes de chantier et qui se déplaçaient d'entreprise en entreprise et qui chez nous trouvent une certaine régulation de leurs emplois, et les femmes qui, pour des raisons familiales, ne veulent travailler que 3 ou 4 mois par an. Mais on peut dire qu'en général, le travailleur temporaire est un travailleur classique qui vient d'un emploi permanent, qui cherche chez nous un dépannage momentané, qui retourne en emploi permanent dans un délai bref.
Un dépannage momentané, c'était en 1969, ce document de l'ORTF, l'Office Radio de Télévision Française, et c'était au journal télévisé, et le journaliste Bernard Pradino interroge un responsable du travail temporaire qui en limite le caractère. Il y a 100 000 travailleurs précaires à l'époque, mais des travailleurs qui sont touchés par la précarité. On sait très bien en 69 qu'il s'agit d'une forme dégradée de travail, et on essaiera, on se promet d'en limiter les effets et la dimension dans le monde du travail. 33 ans après, écoutez ce document.
Adéco, numéro 1 du travail temporaire.
Vous êtes intérimaire ou vous êtes
pas maire? Oui, c'est
vous, maire. Vous aussi?
Oui.
Là, c'est un groupe d'intérimaires.
Là, oui.
Vous êtes intérimaire aussi?
Intérimaire aussi, oui.
Vous êtes de Montbéliard?
Non, Besançon.
Besançon? Donc
ouais,
vous êtes de loin, alors?
De loin.
Et vous habitez à Besançon?
Non, on habite là, on prend le car à la navette qui nous ramène ici.
Et c'est quelle maison d'intérim vous travaillez?
C'est intérim 25.
C'est intérim 25 aussi?
Non, à l'école, automobile.
Sur Montpellier, ça.
Oui.
Et vous avez choisi de venir à l'usine ou...
Comment?
T'échanges deux mots avec ton collègue, on te dit tu parles trop. T'as besoin d'aller chercher de la marchandise ailleurs dans l'usine parce que t'en as besoin pour ta machine, pourquoi tu te balades? Donc c'est devenu, faut pas parler, faut pas que le boss il te croise en train d'aller chercher quelque chose au fond de l'usine. Syndicat, faut surtout pas en parler, faut pas se plaindre, faut dire t'es content, t'es d'accord. Je me souviens même d'un ouvrier qui m'a dit récemment, ne les contrarie pas trop. Parce que quand il nous avait montré un peu l'usine, ce qu'il fallait faire pour que ce soit nickel, que ce soit bien, bien propre, j'avais posé la question, mais c'était ironique, hein, c'était pour rire, on a augmenté combien? Il y a même un employé qui est là-bas depuis 9 ans, s'est retourné, m'a dit ne les contrarie pas trop, tais-toi. Ne les contrarie pas trop, tais-toi.
Adéco, numéro 1 du travail temporaire.
Jetable, devenir un jetable, c'est l'angoisse, c'est la revendication, ce que dénoncent aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers de jeunes lycéens et d'étudiants. Mais dans ce document, on le voit, récent, de 2002, la précarité, l'emploi jetable, et c'est installé dans le monde du travail, dans le monde ouvrier, dans le monde salarié. Entre les deux, un autre document qui date de 1980, c'était sur TF1, avant que TF1 ne soit privatisé, au journal télévisé, on s'interrogeait longuement avec des reportages pointus sur le travail temporaire, et c'était pour le dénoncer.
Si le travail temporaire répond à une certaine nécessité économique, trop souvent les travailleurs intérimaires sont les victimes d'abus et de procédés que désapprouvent les vrais professionnels. Nicole, agent technico-commercial dans une agence d'intérim, explique quelques-unes de ses pratiques.
Qui sont les gens qui viennent dans votre agence ?
Pour la plupart, des manœuvres en jardinage. Hein. Il arrive quelquefois qu'il y ait un petit peu de personnel qualifié, mais enfin, c'est pas très courant dans cette agence-là. L'agence dépêche un directeur commercial qui va recruter dans des centres d'hébergement, hein, où il propose du travail. Les gens sont quand même tenus de venir.
Ils sont pratiquement obligés d'aller travailler.
Pratiquement.
Si ils refusent de venir travailler, leur centre d'hébergement les renvoie.
Voilà, ne les reprend plus. Hein. Alors ces gens viennent donc à 6h15. Peut-être y aura-t-il un emploi. Peut-être pas, parce qu'il y a souvent un très grand nombre de gens pour le petit peu d'emplois proposés. Mais il ne faut quand même pas que l'agence manque de main-d'œuvre. Hein. Donc il vaut mieux dire oui, venez demain matin, pas de problème, à 6h15 à l'agence. Et ils sont là.
Donc c'est les premiers qui sont là qui sont pris.
Pas forcément. Ça se fait aussi. Enfin, il y a une histoire quand même de racisme, de couleur, des gens qui parlent pas français, d'autres qui sont bien chez nous, des bons gaulois. Enfin bon, tout ça, c'est quand même des critères de sélection. Hein. Mm-hmm. Alors, ces gens-là sont donc envoyés sur les lieux de travail en estafette le premier jour, hein, de manière à ce qu'ils ne se perdent pas dans la nature. Ensuite, ils iront de leurs propres moyens. Hein. Quand la personne vient à 6h15 à l'agence le matin pour ne commencer son emploi qu'à 8h, ou qu'elle revienne le soir, vous avez environ 12 à 13 heures d'heures effectives, mais 8 heures de rémunérées. Il n'y a jamais de mission à durée déterminée, donc ils ne savent pas la veille où ils iront le lendemain, enfin pas toujours.
Ah oui, ils ne savent pas combien de temps va durer la mission.
Non plus, jamais.
Mais en principe, ils devraient le savoir.
Non. Enfin, ils devraient le savoir, oui, mais ça ne se fait pas. Et puis, pour une cause que la personne ne sait jamais d'ailleurs pratiquement, on dit, bah oui, mission terminée, il y a une petite croix dans le petit
papier.
Pourquoi
font-ils ça? Pour allécher, pour décider les gens à venir travailler?
Bien sûr, parce que si vous dites à un intérimaire qu'il a un travail pour la journée ou pour deux jours, à 12,50 l'heure, je ne pense pas qu'il sera tellement intéressé.
La loi qui régit aujourd'hui le travail temporaire est nettement insuffisante et une nouvelle réglementation est à l'étude. Elle devrait assurer une meilleure protection à ce million de salariés qui, chaque année, passent par les agences de travail temporaire.
Précarité a une histoire, longue, longue histoire de la précarité, comment la précarité s'est installée peu à peu dans notre société, dans notre culture, dans nos esprits. Parce que ça, les dates des acquis, on les connaît, 36, 45, 68, mais les dates des régressions, les dates des lois contre la marche de la précarité est beaucoup moins connue et les dates charnières sont beaucoup moins précises dans les esprits. Si toutefois on s'intéresse un peu à l'histoire sociale, à l'histoire du travail, on s'intéresse à d'autres, ou on nous intéresse à d'autres sujets et assez rarement à ceux qui nous concernent quotidiennement tous. Donc on est avec ces deux inspecteurs du travail, Yves et Gilbert, qui avec François Ruffin retracent cette histoire. Donc on a vu 72, 74 et maintenant on arrive en 79.
Deuxième date de la précarité, c'est 79. Qu'est-ce que c'est que 79?
La loi 79, c'est un peu comme la loi 72, c'est d'encadrer et de formaliser le recours au CDD. Ceci dit, là aussi, pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré ou on n'a pas voulu mesurer. Je dis bien, on n'a pas voulu mesurer. Parce que en 79, les phénomènes d'externalisation, ce qu'on a appelé dans l'industrie l'externalisation, la sous-traitance généralisée, étaient déjà largement entamés.
Quand en 72, il y a cette loi sur l'intérim, ou en 79, la loi sur les CDD, il y a une bataille, les syndicats se positionnent contre cette loi sur les CDD, où à l'époque, comme c'est un phénomène encore marginal, on ne perçoit pas l'importance que ça peut avoir dans le code du travail.
Je vous donne l'exemple de la loi sur l'intérim. Par exemple, la CGT, qui était opposée à l'intérim, n'a pas voulu participer à la négociation de la convention collective. La CGT à l'époque, c'était une position de principe, mais la CGT elle-même ne pouvait pas imaginer les ravages et le développement que ça allait prendre.
Finalement, là, en légalisant l'intérim, on a espéré l'endiguer. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est produit.
Ah non, pas du tout.
Par rapport à ce que dit Gilbert, bon, nous sommes des praticiens un peu, mais des grands juristes comme Gérard Lyon-Camp, on dit d'emblée, attention, c'est que en légalisant, on légalise le fait. Alors, on légalise toujours dans l'alibi de dire on va encadrer pour limiter, mais on se rend très bien compte que, au contraire, ça fait presque un appel d'air. C'est-à-dire que, à la limite, on va éliminer quelques margoulins, ça s'est passé en 82. Mais 82, en même temps, oui, 82, donc arrivée de la gauche au pouvoir, les premières ordonnances, donc dans les lois Auroux, on dit hein, globalement donc 39 heures, 5 semaines de congés payés, et des ordonnances donc sur les CDD et l'intérim, avec toujours donc ce débat en disant on va encadrer par la loi. Alors ça a permis effectivement de faire un peu le ménage hein, de certaines entreprises que tu.
Finalement, ça voulait dire que tout en le réglementant, y compris la gauche, accepter qu'il y a un développement de l'intérim, accepter qu'il y a un développement des CDD, accepter cette flexibilité, quoi.
Bien sûr, complètement.
Si on reprend, 72, c'est la loi sur qui légalise l'intérim. 79, c'est la loi qui légalise et réglemente le recours au CDD. 82, c'est la loi, les lois Auroux, qui légalise la flexibilité, pour ainsi dire. Ensuite, pendant deux décennies, notamment sur ces bases juridiques-là, il va y avoir un développement...
Une explosion. Une explosion d'intérim avec des secteurs entiers où bon, il y a des situations où il y a des chantiers, par exemple, où il y a un chef de chantier et que des intérimaires, c'est arrivé, ou des secteurs d'activité, on prend l'automobile, où on peut avoir en même temps, moi j'ai vu le cas, licenciement économique, heures supplémentaires et 600 intérimaires pour 2000 personnes.
Et c'est des gens qui vont passer 2, 3, 4 années, parfois, à enchaîner des CDD, de l'intérim. Mais là, bon, la loi, elle n'est pas respectée dans ce cas-là.
La loi n'est pas respectée sur le principe, mais en général, ils vont s'arranger pour donner les apparences de respect de la loi. Alors, on va succéder des CDD pour remplacement des personnes absentes. Après, on va prendre un surcroît d'activité, parce que les surcroît d'activité, c'est par rapport à un motif, donc on va changer de motif. Donc on va dire, par exemple, surcroît d'activité lié à construction ligne 1, et puis après, on va refaire un autre surcroît d'activité lié à construction ligne 2, par exemple. Bon, la loi est globalement bafouée. Moi, quand j'ai commencé en 82, par là, une entreprise de 10-20 salariés, il y avait une immense majorité de CDI, il y avait un ou deux CDD et trois contrats d'intérim. Là, on pouvait regarder. Lorsque les proportions sont complètement inversées, qu'on n'a plus que 2-3 personnes en CDI et tout le reste en intérim et sur le contrôle, ça devient quasiment mission impossible dans les faits.
Aujourd'hui, on en est à un point où 80%, 8 embauches sur 10 se font en CDD ou en intérim.
Sous forme précaire.
Sous forme précaire, oui. Où depuis 10 ans, le nombre de personnes en CDD a augmenté de 60% et le nombre d'intérim de 160%.
Il faut dire aussi que pendant toutes ces années-là, avec la montée, la persistance, l'augmentation du chômage de masse, bah, s'est développée l'idée que valait mieux de l'intérim que le chômage, valait mieux des CDD que le chômage. C'est une soupe qu'on nous ressort encore aujourd'hui. Bon, c'était le même raisonnement. C'était de dire, si on donne de la souplesse aux entreprises via l'intérim ou les CDD, eh ben, elles n'hésiteront pas à prendre des marchés, elles n'hésiteront pas à demander... Encore une fois, on voulait jouer le droit du travail contre le droit au travail ou l'inverse. Le résultat, c'est que globalement, c'est pas ça qui a réglé les problèmes d'emploi et de loin, mais par contre, ça a précarisé des pans entiers. Parce que sur le fond, le raisonnement est faux, et que ce qu'on visait pas, c'était pas forcément le plein emploi, mais la compétitivité des entreprises pour aller vite. La précarisation n'a rien apporté, il faut le regarder sur 30 ans, n'a rien apporté en termes d'effet de création d'emplois. Par contre, ça a eu un effet durablement et socialement très dévastateur, et notamment, alors c'est les jeunes.
Tout va bien, quoi. pas de soucis, mais à part l'avenir, quoi. Mais bon. Je comprends pas, c'est justement, j'ai travaillé en intérim, j'ai fait 16 entreprises, sur 16 entreprises, on veut pas garder, quoi. Bon, c'est sûr, c'est de l'intérim. Mais... je comprends pas, quoi. Ah, parce que c'est... ça me... c'est stressant, quoi, c'est même invivable. C'est... j'ai l'impression d'être comme un objet sans vie, quoi. Je ressens plus rien, je suis paumé, quoi.
La précarisation n'a créé aucun emploi. C'est quand même important de le constater, de le savoir sur une période aussi longue, en dépit de toutes les promesses des employeurs, du MEDEF, ou des patrons, ou des gouvernements successifs. La flexibilité, la précarisation n'ont créé aucun emploi. Il faut quelques chiffres peut-être. Il faut rappeler que le travail, la population active au travail atteint 27 millions de personnes. Et il faut souligner les financements massifs d'aide aux entreprises au nom de l'emploi. Et ces financements, pour 2004, pour donner une idée, s'élevaient à 24,5 milliards d'euros. Un record absolu depuis leur apparition en 1973. Ces indemnités ont été multipliées par près de 40, ce qui représente 19 700 euros par emploi créé ou sauvé, c'est-à-dire l'équivalent d'un an de SMIC. Donc la précarité ne crée pas d'emploi, la flexibilité ne crée pas d'emploi. Par contre, le soutien aux entreprises pour maintenir les emplois est massif. On continue donc l'histoire de cette précarité avec ces deux inspecteurs du travail.
En même temps qu'il y a ce développement de la précarité, du CDD, de l'intérim dans le secteur privé, dans le secteur public ou dans le secteur associatif, il va y avoir le recours à un certain nombre de TUC, les travaux d'utilité.
Il y a un double mouvement. D'un côté, donc on voit bien cette explosion de la précarité, mais les règles, la référence reste le contrat à durée indéterminée à temps plein, donc un contrat protecteur, et qui, dans les faits, reste le contrat majoritaire. Dans le même temps, on met en place des politiques de l'emploi où là, on expérimente d'autres statuts. Donc, par exemple, par rapport aux TUC, les gens étaient stagiaires, donc il n'y a pas de contrat de travail. Donc là, on sortait des gens d'une catégorie de contrat de travail. Et en même temps, on a développé des formes d'emploi à travers de ce qu'on appelle l'insertion par l'économique, association intermédiaire, entreprise d'intérim d'insertion, où sous réserve que les gens étaient en extrême difficulté et peu employables, c'est-à-dire qu'on inverse, c'est pas les patrons qui donnent pas de boulot, ce sont les gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent plus travailler. Moi, je pense, ça a servi de laboratoire pour, de fait, des nouvelles formes d'emploi qui sont peut-être maintenant qui sont en germe, c'est-à-dire où là, on va s'attaquer au noyau dur, le CDI. Et on voit aujourd'hui, par exemple, moi je vous donne un exemple, où des communes, maintenant, ce que vous pensez être les employés municipaux, sont de fait des gens mis à disposition par des associations intermédiaires, de personnes en difficulté financées par les impôts, qui travaillent depuis des années avec des contrats renouvelés chaque semaine pour entretenir les espaces verts. Il y a 300 personnes qui sont dans cette situation en permanence depuis 5 ans. Alors que je suis sûr que la majorité des habitants de la commune pensent même que ce sont des employés municipaux. Et ça s'est développé de manière exponentielle.
Donc c'est-à-dire que on a parlé du CDD et de l'intérim, mais à côté de ça, il y a eu un certain nombre d'autres formes d'emploi, comme le contrat emploi solidarité, le contrat emploi consolidé, les travaux d'utilité collective, un certain nombre de stages, contrats adultes relais, je ne sais pas, qui ont contribué eux aussi à fragiliser la norme qui est le contrat à durée déterminée, qui est le CDI.
Là, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'ils ont servi de ballon d'essai et d'expérimentation sur ce qui était faisable, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, pour aller vers ces nouvelles propositions de dire il faut que là, on pète le CDI.
Mais alors, la difficulté, c'est que tout ça s'est développé, mais en permanence, non, ce discours qui accompagnait ça, c'était un discours toujours un peu compassionnel. C'était le discours de l'aide aux personnes en difficulté.
Bien sûr, complètement.
On a dit 72, légalisation de l'intérim, 79, légalisation et encadrement du CTD, 82, la même chose, plus acceptation de la flexibilité. Ensuite, pendant deux décennies, ça se développe, notamment sur ces bases juridiques-là, se développe l'intérim et les contrats précaires. Et là, on assiste comme à une accélération de l'histoire depuis quelques années, parce que malgré tout, il y a une résistance du contrat à durée déterminée, qui représente aujourd'hui 80% des salariés. Depuis l'an dernier, c'est comme si on avait décidé de s'en prendre directement, frontalement maintenant, au contrat à durée indéterminée.
À force d'avoir tout expérimenté en matière de flexibilité, on se dit que on pourra aller difficilement aller plus loin. Donc si on veut une étape supplémentaire au nom de la mondialisation et d'une économie libre et sans entrave, maintenant il faut passer aux travaux pratiques à l'étape supérieure. Je pense que c'est à ça auquel on est confronté aujourd'hui, dans le cadre d'une construction européenne qui, compromis Lisbonne et tout, a inscrit ce calendrier à l'ordre du jour.
Parce que pour vous, toutes ces décisions-là sont des décisions purement françaises ou bien elles s'inscrivent dans un contexte européen, dans un contexte international ?
Oui, non, il y a un contexte européen qui est manifestement libéral. C'est le discours rémanent de l'OCDE, la rigidité des marchés du travail. L'OCDE tape sur les doigts d'un certain nombre de pays sur leur dette extérieure et sur les rigidités du marché du travail.
On a un gouvernement qui a compris que on passe plein de petites lois. C'est-à-dire que actuellement, pour les inspecteurs du travail, c'est vrai pour tous les juristes, suivre l'évolution du droit du travail et savoir exactement quel est le droit applicable à l'instant T devient quasiment mission impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte, au lieu d'avoir une grande loi qui va tout reprendre, comme on a un peu, qui balaye tout, chaque loi aura son petit morceau. Tac, un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout.
C'est-à-dire qu'à côté, on parlait des grandes dates de la précarité, c'est quasiment devenu impossible d'avoir des grandes dates de la précarité, tant il y a de petites dates qui se succèdent. Tous les trois mois, il y a des petits bouts de réformes qui se mettent en place, c'est ça?
Depuis 2002, c'est évident. À chaque loi, tous les mois, en six mois, si vous balayez en six mois l'évolution du droit social, c'est faramineux.
Un grand bond en arrière. On va finir avec Pierre Concialdi, qui est chercheur à l'IRES et qui brosse un tableau plus précis, peut-être encore, du phénomène.
Alors on se trouve avec Pierre Concialdi, qui est économiste, chercheur à l'IRES, à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous avez des ordres de grandeur sur la précarité dans l'emploi.
L'intérim, d'abord, il y avait moins de 100 000 emplois d'intérimaires au début des années 80. On est à plus de 500 000 aujourd'hui, donc une multiplication par 5. Pour les CDD, c'est pareil, une multiplication par 4. Et l'ensemble de ce qu'on appelle les stages et les contrats aidés, là aussi, il y a une multiplication de plus de 3 en 20 ans.
D'accord, donc là, il y a une multiplication par 4 pour les CDD, multiplication par 5 pour l'intérim.
Oui, alors le patronat parle, lui, de flexibilité, mais bon, effectivement, le revers de la médaille pour les salariés, c'est la précarité. C'est son maître mot depuis le début des années 80, effectivement. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la flexibilité de l'emploi et le volume de l'emploi.
Vous dites que c'est pas parce qu'il y a plus de flexibilité qu'il y a plus d'emplois qui sont créés?
Absolument pas. Il n'y a aucune étude empirique qui montre un lien entre flexibilité de l'emploi et volume de l'emploi.
Qui gagne à cette précarité alors?
Clairement, ce ne sont pas les salariés qui vont y gagner. Et donc les grands gagnants, depuis 20 ans, c'est clair que ce sont les entreprises, au moins si on regarde leurs comptes, puisque les profits ont explosé depuis 20 ans. On a un indicateur simple en économie, c'est le partage des revenus entre les revenus du travail et les revenus du capital, ou les profits si on veut. Et bien, la part de ces revenus du capital, donc ces profits, a augmenté de 10 points. Depuis le début des années 80.
Il y a 10 points du PIB qui vont plus dans les poches des salariés, mais qui vont dans les poches des actionnaires. C'est ça un peu ou...
Ça va effectivement aux actionnaires qui détiennent ces actions. Ce qui équivaut aujourd'hui à un transfert annuel de plus de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 10 fois le déficit annuel de la sécurité sociale.
Je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tous ceux qui payent l'ISF et la liberté d'entreprendre, et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour que nos manœuvres plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF, car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible, et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible. Je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre SNCF et qui coûte cher aux fonctionnaires. Et je me battrai contre la crise pour relancer l'activité. Je prendrai qu'on la délocalise partout où on veut l'exploiter. Quand je serai membre du MEDEF, je dirai que le libre-échange peut tout pendant que j'engrangerai les bénéfices. En embauchant à moindre coût, je serai pour un État régalien, armé des lois de la police qui se tiennent main dans la main. Madame Smith. Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il ne peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les cons et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith. Gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois.
La précarité, le travail précaire a une histoire. C'était un reportage de François Ruffin, reconstruit à partir d'archives de là-bas, si j'y suis. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission, là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également nous retrouver sur le site là-bas.org, là-bas.org, et sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Vincent Godard et Martine Guénard. C'est Bertrand Chaumeton et Franck Allerer qui ont réalisé cette émission, assisté de Marina Touillez, et Grégory Salomonovitch, quant à lui, attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Nous préparons, il me reste quelques secondes, nous préparons une série ou une émission, on verra, sur les sondages. Ça fait plusieurs fois qu'on revient sur ce thème sans l'avoir traité complètement. Donc, si vous avez travaillé dans des entreprises de sondage et si vous voulez témoigner, nous apporter vos témoignages, on en serait particulièrement heureux. Vous pouvez soit nous laisser un message sur le répondeur, je rappelle le numéro 01 56 40 37 37, ou sur le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.
France Inter et le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers présentent du 25 janvier au 17 février « Oh les beaux jours » de Samuel Beckett, mise en scène par Blandine Savetier avec Yann Colette et Nathalie Royer.
Celle-là alors, il ne suffisait pas d'avoir à l'entendre, maintenant il faut la regarder par-dessus le marché. Eh bien, c'est tout à fait compréhensible, on a l'air de demander pas grand-chose. Hein. Des moments où il semble guère possible de demander moins, insemblable.
Retrouvez « Oh les beaux jours », mise en scène par Blandine Savetier, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente « Les bien-aimés », le nouveau film de Christophe Honoré en DVD et Blu-ray.
Attends un peu, quand se déteste.
Aujourd'hui tu me trouves belle, mais plus tard, qui sait.
Des 60s aux années 2000, Madeleine puis sa fille Vera vont et viennent autour des hommes qu'elles aiment.
Mais j'étais pas une fille facile, hein, pas comme ça.
Les bien-aimés avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, un DVD et Blu-ray France Inter.
Demain à 15h sur France Inter, on partira pour là-bas. Je vous laisse avec Laetitia Gaillet pour les infos. Salut.
Un sommet riche pour Laurence Parisot du MEDEF, quelques mesures utiles pour François Chérec de la CFDT, peut-être, mais ce sont surtout des mesures qui n'auront pas d'impact sur l'emploi pour Bernard Thibault de la CGT. Voici quelques-unes des réactions des protagonistes du sommet social qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. Nicolas Sarkozy a annoncé donc des mesures d'urgence pour enrayer le chômage, montant total 430 millions d'euros, financés par le redéploiement de crédits déjà existants. Alors, pêle-mêle, on retrouve la formation des chômeurs, la formation professionnelle, la suppression pendant 6 mois des charges pour les très petites entreprises qui embauchent des jeunes de moins de 26 ans. Et enfin, un millier de CDD en renfort à Pôle emploi. Les dossiers polémiques de la TVA sociale et de la flexibilité du temps de travail seront, eux, tranchés à la fin du mois. Nicolas Sarkozy s'adressera aux Français dans le même temps. En écho au sommet de l'Elysée, plusieurs milliers de personnes ont manifesté cet après-midi à l'appel de la CGT, FSU et Solidaire dans les rues de Paris pour dénoncer un sommet antisocial convoqué pour la forme. D'autres rassemblements ont eu lieu en région, notamment à Toulouse ce matin. La croissance de la France pourrait être révisée d'ici le mois prochain. Le gouvernement, en fait, attendra le projet de loi de finances rectificative pour le faire. Projet de loi qui doit inclure donc les principales mesures décidées aujourd'hui à l'Élysée. Le gouvernement table sur une croissance de 1% de l'économie cette année, un taux jugé optimiste par les spécialistes. De son côté, l'Allemagne a déjà officiellement revu à la baisse ce matin ses prévisions de croissance à 0,7% contre 1%. Et c'est la crise décidément pour tout le monde. Le Fonds monétaire international annonce aujourd'hui qu'il a besoin d'emprunter près de 500 milliards d'euros pour pouvoir ensuite les prêter aux pays souffrant des retombées de crise de la dette. Si Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Chevènement le dit aujourd'hui, il appellera à voter pour le chef de l'État. En cas de duel Bayrou-Sarkozy en revanche, le candidat MRC a dit vouloir encore attendre avant de se prononcer, de voir ce que propose le candidat du Modem. Ils sont omniprésents dans les hôpitaux français, les médecins à diplôme étranger hors Union européenne. Ils font le même travail que leurs confrères français, ayant obtenu leur diplôme donc en France ou dans l'Union européenne. Mais leur rémunération est loin d'être la même. L'Assemblée nationale doit donc examiner aujourd'hui une proposition de loi qui devrait permettre à ces médecins de continuer tout simplement à faire leur travail jusqu'en 2014. Écoutez le témoignage de Karim Salaoui, médecin diplômé en Algérie et travaillant en France.
J'ai pas trouvé de travail de médecin à l'hôpital, donc il y avait une souplesse pour passer le diplôme d'infirmier et de là travailler dans les hôpitaux. C'est frustrant parce que bon, on a fait nos études en Algérie, c'est calqué sur le système français. On parle très bien le français, mais pour vivre, on est obligé de chercher du travail là où il se trouve.
Comment vous avez pu avoir l'emploi que vous avez maintenant alors? De quelle façon?
C'est pas des annonces que vous trouvez, si vous voulez, sur les magazines ou sur Internet par rapport aux sites médicaux. C'est un ami d'un ami qui dit qu'il y a un poste qui risque de prendre un médecin étranger, de fermer les yeux entre parenthèses parce qu'ils sont en manque. Ça fait des années qu'ils n'ont pas trouvé de postulant. Nous, on y va et on accepte. Bien sûr, on est moins payé. Moi, je gagne 2000 euros par mois alors qu'un collègue français gagne pratiquement 4000 euros par mois, sans les gardes. C'est pour ça qu'on est obligé de faire beaucoup de gardes par mois pour essayer d'arriver à un salaire décent. On accepte de venir avant nos collègues et de repartir après eux. C'est dans ces conditions-là qu'on travaille. Sinon, pas de travail. Les hôpitaux, sans fausse modestie, tournent grâce à nous. Maintenant, il faut ouvrir les yeux et nous intégrer.
Des propos recueillis par Daniel Messager, 16h03 sur Inter.
Tous les dimanches, à partir de midi, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dimanche, 12h-14h, 3D au studio 109 de la Maison de la Radio, en direct et en public, la transdisciplinarité pour traiter l'actualité.
3D.
Des fauteuils rouges, comme au cinéma.
En direct et en public du studio 109.
De la proximité.
Tous les dimanches.
3D pour vous et avec vous.
À partir de midi.
Dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
C'est à vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Deux grands sujets aujourd'hui, la disparition du maître Gustave Leonhardt, claveciniste, organiste, chef d'orchestre, un des piliers de la musique baroque, et puis, alors ça c'est évidemment, c'est le passé, tout récent, mais on va vers l'avenir aussi avec les révélations des victoires de la musique classique, et on pourra entendre les instrumentistes aujourd'hui, ceux qui ont joué, c'était à la Maison de Radio France, le 5 de ce mois, devant un beau public, et comme ça ils ont pu s'exprimer, vous pourrez les entendre, les juger, soit sur notre site. D'ailleurs, vous pourrez écouter cette émission pendant 15 jours, bien sûr, en streaming. Et puis, on peut aussi réécouter et voir le concert sur plusieurs sites que je vais vous donner. Et par exemple, tout de suite, pour ne pas vous faire languir, lesvictoires.com, france3.fr ou francemusique.fr. Puis, il y en a d'autres, je préciserai, bien pourquoi pas, télérama.fr. Mais pour l'instant, Gustave Leonhardt, qui était né le 30 mai 1928 aux Pays-Bas, il a fait ses études musicales dans son pays natal, et puis il s'est perfectionné dans un vivier de la musique ancienne à Bâle, la Schola Cantorum Basiliensis, auprès d'Edouard Müller, et puis il a commencé à Vienne, il a joué l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, il a enregistré ses premiers disques, mais je ne vais pas vous fatiguer avec tous ces détails, toute cette suite incroyable de concerts, de rencontres, rencontres avec Nicolaus Harnoncourt, quand même très importante, autre grand monsieur de la musique ancienne, Alfred Deller, contre-ténor, et il a enregistré Leonhardt, donc des cantates de Bach, notamment, beaucoup d'œuvres de Bach, mais pas seulement. Il a été aussi acteur dans un film en 1967, il tenait le rôle de Jean-Sébastien Bach, le film de Jean-Marie Straub, et puis de Daniel Huillet, Chronique d'Anna Magdalena, et il joue un Jean-Sébastien très introverti d'ailleurs, extrêmement sobre et calme, qui correspond à peut-être pas complètement, je ne dirais absolument pas, peut-être pas complètement avec l'image qu'on a de Jean-Sébastien Bach, sanguin, fougueux, colérique parfois. Mais enfin, il joue toujours superbement l'œuvre dans le film comme ailleurs. Voici le premier prélude du deuxième livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par le regretté Gustave Leonhardt. Premier prélude du deuxième livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par Gustave Leonhardt. Leonhardt qui a reçu des honneurs très importants. Il a obtenu une chaire à l'université de Harvard, par exemple, en 69. En 80, il a obtenu le prix Erasme. Il a été docteur honoris causa des universités de Yale, Harvard, Washington, Dallas, Metz, Amsterdam, Leyde et Padoue. Et comme musicologue, il a publié une étude sur l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, ce qui n'est pas rien. Et il a édité les œuvres pour clavier de Swilling, parce qu'il n'a pas joué que du Bach, même si on l'a beaucoup assimilé à ce personnage. Et il faut savoir aussi que Leonhardt a fondé en 1970-71, sur proposition d'une maison allemande, Deutsche Harmonia Mundi, l'orchestre de la Petite Bande, avec pour chef permanent le violoniste Sigvald Koiken. Et je vous propose d'entendre maintenant Leonhardt, chef d'orchestre, avec un extrait de l'oratorio de Pâques, Chœur et Allegro. C'est un petit peu en avance, la période, pardonnez-moi, mais enfin c'est tellement beau. De toute façon, que les louanges et les reconnaissances soient ton hymne, Seigneur. Le cœur allegro que les louanges et les reconnaissances soient ton hymne, Seigneur, de l'oratorio de Pâques de Jean-Sébastien Bach par l'orchestre et le chœur du siècle des Lumières, dirigé par Gustav Leonhardt, voilà ce grand maître qui nous a quittés il y a 2 jours. On le salue, peut-être qu'on y reviendra, mais je voudrais maintenant m'occuper de ceux qui vont faire la gloire de la musique, peut-être, c'est-à-dire les révélations des victoires de la musique classique et la catégorie instrumentale que vous allez avoir à juger vous-même.